Imaginez un instant la scène. On se tient devant l'un des tableaux les plus célèbres au monde, la jeune fille à la perle.
Ah oui, incontournable.
Quiconque a déjà croisé de regard de cette figure connaît ce fond noir absolu, isolant, presque théâtral. C'est ça qui fait littéralement jaillir le visage vers nous. C'est l'essence même du génie mystérieux de ce peintre.
C'est clair. C'est ce contraste qui marque les esprits.
Eh bien, que dirait-on si la science médico-légale venait d'apporter la preuve irréfutable que ce fond noir, en fait, c'est un mensonge complet?
Ouais, ça casse un peu le mythe, hein?
Totalement. Imaginez que depuis des siècles, l'humanité entière admire en réalité un gigantesque accident chimique vieux de 400 ans.
C'est une entrée en matière qui bouscule pas mal de certitudes. Et franchement, c'est exactement pour cela que le croisement entre l'histoire de l'art et les sciences dures est si captivant aujourd'hui. On ne se contente plus de suppositions esthétiques.
Exactement. Le but de cette plongée approfondie, c'est de comprendre comment les technologies du XXIe siècle sont en train de réécrire l'histoire d'un maître absolu du XVIIe siècle, Johannes Fermier.
Et pour mener cette enquête, on a deux dossiers massifs sur la table d'examen aujourd'hui.
Ouais, deux sources fascinantes. La première, c'est une étude monumentale publiée en 2019 par l'Université d'Amsterdam et le musée du Mauritius. Ça détaille l'analyse ultramoderne de la jeune fille à la perle.
Et le second document, alors ça nous vient de l'Université Polytechnique de Catalogne. Là, des chercheurs ont utilisé des logiciels de conception assistée par ordinateur, la fameuse CAO, pour déconstruire la géométrie d'une autre toile complexe, la leçon de musique.
En gros, bien vu dans les experts là et quoi.
C'est tout à fait ça, oui. Mais le cadre est posé et je pense qu'il est important de préciser l'intention derrière cette déconstruction.
Bien sûr, vas-y.
L'objectif n'est pas du tout de désacraliser l'œuvre ou d'utiliser la froideur d'un algorithme pour écraser la magie de la peinture. Au contraire, ces technologies agissent comme une véritable machine à remonter le temps.
Une machine à remonter le temps, oui. C'est une belle image.
Elle nous invite à entrer virtuellement dans l'atelier du peintre, à comprendre ses luttes matérielles et techniques. En fait, c'est une façon de voir la réalité de la création au-delà du mythe intouchable.
Bon, décortiquons tout ça. Commençons par l'évolution fascinante de nos propres outils. Car la manière dont on enquête sur un tableau, ça a radicalement changé.
Ah oui, c'est le jour et la nuit.
Si l'on remonte à 1994, il y a eu un grand projet d'étude appelé Vermeer Illuminated. À l'époque, la méthode scientifique était incroyablement tactile, presque chirurgicale, et surtout très invasive.
Totalement. En 1994, l'analyse matérielle impliquait un contact direct et même destructeur avec l'œuvre.
Destructeur. C'est fou d'imaginer ça aujourd'hui.
Oui. Les conservateurs devaient littéralement s'approcher de la toile avec un scalpel, sous un microscope bien sûr, mais ils allaient prélever de minuscules éclats de peinture.
Aïe. Sur la jeune fille à la perle?
Exactement. Dans l'étude, on les appelle les échantillons A et B. Ils cherchaient des zones déjà légèrement endommagées, près des craquelures, pour gratter un peu de matière.
Et ils en faisaient quoi de ces miettes?
Ensuite, ces fragments microscopiques étaient noyés dans des blocs de résine synthétique, puis ils étaient tranchés pour être observés de profil. L'idée, c'était de voir la stratigraphie, l'empilement des couches de peinture. Un peu comme on analyserait les strates géologiques d'un canyon, tu vois.
C'est terrifiant quand on y pense. S'approcher d'un chef-d'œuvre inestimable avec une lame, c'est littéralement l'équivalent d'une biopsie médicale.
C'est ça. On prenait un bout du patient pour l'analyser.
Mais faisons un saut dans le temps. Avance rapide, jusqu'en 2018, avec le projet The Girl in the Spotlight. Là, la méthodologie, elle bascule carrément dans la science-fiction.
Ah, on change de dimension, c'est clair.
La toile est placée dans une pièce construite sur mesure, la salle dorée du Mauritius. Exposée au regard du public, mais cette fois, l'approche est entièrement non-invasive. Pas de scalp.
Pas de contact.
Zéro contact physique. C'est le grand triomphe de l'imagerie moderne. L'équipe a utilisé, entre autres choses, un scanner à fluorescence de rayons X macroscopique.
Oula, le MAXRF, c'est ça?
Oui, abrégé en MAXRF. Pour visualiser la chose de manière simple, imaginez qu'on bombarde doucement la surface de la toile avec un faisceau d'énergie invisible.
D'accord.
Et chaque élément chimique présent dans la peinture, que ce soit le plomb du blanc, le cuivre du vert ou le fer de l'ocre, va réagir à cette énergie en renvoyant un écho spécifique.
Un écho?
Genre une signature invisible.
Exactement. Une sorte de signature lumineuse, invisible à l'œil nu, mais que le scanner capte avec une précision folle.
Donc, au lieu de prélever un morceau de peinture pour savoir ce qu'il y a dedans, on écoute simplement ce que la toile nous renvoie, élément par élément. C'est comme passer d'une simple loupe de détective à une IRM complète du tableau.
C'est le principe, ouais. Le scanner balaye la toile millimètre par millimètre, jour et nuit. Et après, l'ordinateur compile ces échos pour créer des cartes élémentaires.
Des cartes ubiquitaires.
Oui, on obtient une carte du plomb, une carte du cuivre. Ça permet de voir exactement où le peintre a déposé tel ou tel pigment chimique, y compris dans les couches inférieures qu'on ne voit plus du tout aujourd'hui.
Et c'est cette capacité à voir l'invisible qui a provoqué un séisme concernant ce fameux fond noir.
Voilà, le scanner nous montre ce qui a disparu, et ça nous amène directement à ce fond.
On y arrive. Ce vide abyssal derrière la jeune fille. En 1994, avec leurs échantillons physiques, les scientifiques avaient conclu qu'il s'agissait simplement d'une couche contenant du noir d'os.
Ouais, un pigment fabriqué à partir de restes d'animaux carbonisés.
Burke, mais d'accord. Ça semblait clore le débat, même si certains historiens trouvaient que ce fond avait un aspect un peu étrange, mat et irrégulier pour un peintre de cette envergure.
Ce qui est fascinant ici, c'est que l'état actuel d'un tableau nous ment constamment. La peinture n'est pas figée, c'est une matière organique qui subit de plein fouet les lois de la chimie et de la thermodynamique.
Donc elle vieillit, elle se dégrade.
Absolument. En 2018, les chercheurs ont couplé l'analyse chimique à une technique appelée tomographie par cohérence optique multi-échelle, le MSCOT.
Encore un acronyme de film de science-fiction, hein.
Oui. Pour faire simple, c'est un rayon infrarouge qui pénètre la surface et permet de trancher visuellement le tableau en profondeur, comme une échographie. Et ce qu'ils ont vu sous le vernis actuel, c'est que ce fond n'a jamais été noir à l'origine.
Le fameux mensonge. Alors, c'était quoi donc?
En réalité, c'était un magnifique rideau vert émeraude.
Vert émeraude?
Oui, un glacis, c'est-à-dire une couche de peinture presque translucide, unie, lisse et profondément brillante. L'analyse chimique a prouvé que Vermeer avait créé ce vert en mélangeant deux éléments très spécifiques,
Lesquels?
de l'indigo, qui est une teinture bleue, et de l'alutéoline, un pigment jaune vif extrait d'une plante que l'on appelle la gaude.
Donc un bleu et un jaune organique pour faire un vert lumineux. Mais que s'est-il passé, bon sang, pour que ce vert émeraude devienne ce mur de charbon plat et sans vie qu'on voit aujourd'hui?
Le temps, la lumière et l'humidité, tout simplement. L'indigo et la gaude sont des pigments organiques, d'origine végétale.
Contrairement aux minéraux, je suppose.
Exactement, contrairement aux pigments minéraux, comme l'ocre ou le lapis-lazuli, qui traversent les millénaires sans bouger. Ces couleurs végétales sont extrêmement photosensibles.
Ah, la lumière les détruit.
C'est ça. En l'espace de quelques décennies, sous l'effet de la lumière naturelle, les liaisons chimiques du bleu et du jaune se sont tout simplement brisées. Les pigments ont pâli, puis disparu.
Wow.
Et du coup, ça ne laisse à l'œil humain que la perception de la sous-couche sombre de préparation qui se trouvait en dessous de ce glacis vert.
La chimie nous révèle donc un fantôme. C'est dingue. Mais en lisant l'étude, on voit que le temps n'est pas le seul coupable de la dégradation de cette œuvre. Les documents mentionnent des interventions humaines, des restaurations anciennes qui font un peu froid dans le dos.
Ah, tu parles des années 1910 et 1920.
Oui, il est question de 1915 et 1922. L'étude dit qu'un restaurateur a appliqué la méthode Pettenkofer. Pourquoi faire subir un truc pareil à un tableau?
Ah, il faut se replacer dans le contexte scientifique du début du XXe siècle. À cette époque, le vernis qui recouvrait les tableaux anciens avait tendance à s'opacifier, à blanchir et à se craquer.
Ça devait ruiner les contrastes.
Complètement. Donc la méthode inventée par le chimiste Max von Pettenkofer semblait être une solution miracle. Elle consistait à placer le tableau dans une caisse étanche et à l'exposer à des vapeurs intenses d'alcool froid.
De l'alcool.
Sur un chef-d'œuvre, oui. Et ensuite, on appliquait de l'huile de copaïba, une sorte de résine épaisse, de baume.
Quel était le raisonnement chimique derrière ça, au juste?
L'idée, c'était que la vapeur d'alcool allait légèrement ramollir et refondre le vernis ancien. Ça permettait de refermer les micro-fissures qui causaient le blanchissement, un peu comme on ferait fondre la surface d'un glaçon pour le rendre à nouveau transparent.
Vu comme ça a du sens.
Sur le papier, oui. Et le baume devait ensuite nourrir la toile. D'ailleurs, sur le moment, le tableau retrouvait un éclat spectaculaire. Mais à long terme, ce fut un désastre absolu.
Parce que l'alcool ne s'est pas contenté de dissoudre le vernis, j'imagine.
Précisément, les vapeurs d'alcool ont pénétré beaucoup trop profondément, ramollissant la couche de peinture originale elle-même. La peinture s'est mise à gonfler, particulièrement sur le front et le visage de la jeune fille.
Oh mon Dieu, la peinture qui gonfle ?
Oui. Et en gonflant, elle a créé de nouvelles craquelures profondes, dans lesquelles le baume poisseux et la saleté se sont incrustés au fil des décennies. Ça a laissé des résidus sombres, impossibles à nettoyer sans arracher la couleur même de Vermeer.
C'est fou de se dire que des méthodes considérées comme la pointe de la science en 1915 sont vues littéralement comme du vandalisme aujourd'hui.
Oui, la restauration, c'est toujours un risque.
Mais ça me pousse à poser une question, peut-être un peu provocatrice. Si la chimie moderne nous prouve de manière indéniable que le fond était initialement d'un vert lumineux et translucide, est-ce que cela ne gâche pas un peu notre rapport à l'œuvre ?
Comment ça ?
Bah, l'ambiance si sombre, si mélancolique, cette esthétique du vide que le monde entier adore, en fait, ce n'était pas son intention. Sommes-nous en train d'idolâtrer un accident de parcours ?
C'est une excellente réflexion, et ça touche vraiment au cœur de la conservation moderne. Savoir que le fond était vert change complètement notre compréhension de la théorie des couleurs du peintre.
Il voulait un contraste de couleurs, pas un contraste d'ombre et de lumière.
C'est ça. Il voulait créer un contraste optique vibrant entre le teint perlé de la jeune fille et la chaleur du rideau vert. Cependant, sur le plan émotionnel, l'image qui s'est imprimée dans l'inconscient collectif, c'est cette figure surgissant des ténèbres. Nous chérissons cette patine du temps.
Donc, on ne va pas la repeindre en vert ?
Surtout pas. Restaurer chimiquement le vert d'origine aujourd'hui, ça créerait un choc esthétique que le public rejetterait sans doute en bloc. On accepte que l'art vive, s'altère et meurt un peu au fil des siècles.
Donc la chimie et les scans aux rayons X nous expliquent parfaitement les matériaux, la détérioration, la lumière. Ils nous montrent que Vermeer maîtrisait la manipulation des glacis pour tromper notre œil. Mais connaître les ingrédients de sa peinture ne résout pas la plus grande de toutes ses illusions, ses espaces en trois dimensions.
Ah, la fameuse perspective.
Oui. Comment ce type arrivait-il à proposer des pièces d'un réalisme si troublant, avec une précision littéralement photographique, et ce sans aucun outil informatique ? Et pour percer ce mystère-là, notre exploration doit changer de braquet. On quitte la chimie des pigments pour plonger dans la géométrie pure et dure.
Et c'est là qu'interviennent notre deuxième étude, menée par Miguel Husson d'Izaga. Son équipe a utilisé un outil complètement inattendu pour analyser l'art du XVIIe siècle.
La CA ?
Oui, la CA, c'est-à-dire les logiciels de conception assistée par ordinateur. Cela même qu'on utilise en ingénierie ou en architecture aujourd'hui. Leur objectif était de trancher une querelle historique brutale concernant les techniques des maîtres anciens.
Le fameux débat de la triche.
En gros, la question, pour ceux qui nous écoutent, c'est de savoir si Vermeer utilisait une caméra obscura, une chambre noire, pour littéralement décalquer la réalité. Oui, c'est un débat très houleux.
Des figures comme l'artiste David Hockney ou le chercheur Philip Steadman affirment que c'est la seule explication à sa précision optique. Mais de l'autre côté, les historiens de l'art traditionnel hurlent au scandale. Ils arguent qu'il n'y a aucune preuve physique dans ces toiles.
C'est vrai, pas de ligne de construction évidente.
Et pour tester tout ça, l'étude s'appuie sur une expérience complètement folle menée par un inventeur américain, Tim Jennison.
Ah, l'expérience de Jennison est cruciale. Cet homme, qui n'avait pratiquement jamais tenu un pinceau de sa vie, s'est mis en tête de reproduire un chef-d'œuvre extrêmement complexe, la leçon de musique, en s'appuyant uniquement sur la technologie.
Le film Tim's Vermeer, c'est ça ?
Voilà. La première étape a été de modéliser la pièce entière dans un logiciel 3D pour reconstruire physiquement les meubles, les fenêtres, le carrelage, tout ça, à l'échelle exacte.
Un travail de titan, mais ensuite il a dû peindre, sans utiliser de chambre noire fermée. L'étude explique qu'il a utilisé un autre dispositif.
Exactement. Jensen a fabriqué une variante d'un instrument optique appelé la caméra lucida. Dans son cas, il s'agissait d'un petit miroir incliné, placé sur un pied entre la toile et la scène à peindre.
Attends, comment ça marche concrètement ?
En regardant le bord de ce petit miroir, l'œil de Jensen pouvait voir simultanément la scène réelle reflétée et la surface de sa propre toile juste en dessous, dans son champ de vision périphérique.
Ah, malin !
Il lui suffisait de mélanger ses pigments jusqu'à ce que la couleur sur son pinceau corresponde parfaitement à la couleur du reflet dans le miroir et de remplir les formes point par point.
Et le résultat final de Jennison est effarant de précision. À l'œil nu, on jurerait que la géométrie du carrelage complexe de la pièce est identique à celle de Vermeer.
Oui, à l'œil nu, c'est bluffant.
Mais c'est ici que ça devient vraiment intéressant. Quand les chercheurs espagnols ont passé la copie de Jennison et l'original de Vermeer à la moulinette de leur logiciel de chaos, ils ont trouvé une faille.
Une sacrée faille, oui.
C'est comme observer un diamant synthétique censé être absolument parfait, le passer sous un faisceau laser et y découvrir une microstructure qui prouve que sa création ne correspond pas du tout au modèle attendu.
La comparaison illustre très bien la démarche. Le logiciel informatique, lui, ne regarde pas la beauté de la touche de peinture. Il déconstruit les points de fuite.
La géométrie froide.
Voilà. Dans un espace en perspective, comme une pièce avec un carrelage au sol, toutes les lignes de profondeur semblent fuir vers un point central. Mais il y a aussi ce qu'on appelle les lignes transversales, les diagonales qui traversent les carreaux.
Et elles vont où, ces lignes ?
Elles ont leur propre point de fuite, qu'on appelle le point T.
C'est là qu'il faut un petit théâtre de l'esprit pour bien visualiser pour ceux qui nous écoutent.
Absolument. Imaginez-vous debout sur des rails de chemin de fer. Les rails fuient devant vous vers l'horizon, ça c'est le point central.
Facile.
Maintenant, imaginez un deuxième jeu de rails qui traverse les premiers en diagonale. Eux aussi finissent par se rejoindre très loin sur l'horizon, mais sur le côté. C'est le fameux point transversal.
D'accord.
Eh bien, l'ordinateur révèle que dans le tableau peint par l'inventeur Jennison, ce point transversal est situé mathématiquement à l'infini.
Pourquoi à l'infini ?
Parce que Jennison s'est basé sur une maquette physique construite à partir d'un logiciel 3D. Le logiciel a généré une perspective qu'on qualifie de frontale parfaite. Dans cette configuration géométrique très spécifique, les lignes horizontales du motif du carrelage sont strictement et éternellement parallèles à la ligne d'horizon du tableau. Elles ne se croisent jamais.
C'est la perfection algorithmique, en fait.
C'est ça. Sauf que...
Sauf que le logiciel CAO révèle que dans le tableau original de Vermeer, ce n'est pas le cas. Le tableau n'est pas parfaitement frontal. Les lignes horizontales finissent par fuir très légèrement.
Oui, elles convergent.
Et le logiciel a calculé l'emplacement précis de ce point de convergence transversal. Il ne se trouve pas à l'infini, il se situe à très exactement 21,88 mètres du centre de la toile.
Et cette donnée précise, ces 21,88 mètres, eh bien ça fait basculer toute l'histoire de l'art.
Ah oui, complètement. Mais pourquoi ce chiffre exact détruit la théorie traditionnelle ?
Parce qu'il faut se poser la question de la mise en œuvre pratique dans l'atelier du peintre. Si l'on suppose que Vermeer n'utilisait pas d'optique et qu'il construisait sa perspective à l'ancienne uniquement avec les règles de la géométrie classique,
il aurait dû tracer des lignes physiques convergeant vers ce point. C'est absurde. Imaginez le peintre dans son petit atelier hollandais. Pour tracer ses diagonales au cordeau, il lui aurait fallu un mur ou une gigantesque planche à dessin de 22 mètres de long.
J'adore ton enthousiasme là-dessus d'ailleurs, parce que c'est visuellement comique.
Mais c'est vrai. La ligne de fuite serait sortie par la fenêtre de son atelier, aurait traversé le canal pour aller se ficher dans la maison du voisin en face. C'est physiquement, humainement, impossible à réaliser avec une règle et un crayon dans une pièce fermée.
Cette impossibilité spatiale prouve qu'il ne construisait pas le carrelage géométriquement. C'est une certitude. Mais, et c'est tout aussi crucial, la KO prouve que la méthode du petit miroir de Tim Jennison ne fonctionne pas non plus pour expliquer l'œuvre originale.
Ah bon ? Attends, pourquoi le miroir de Jennison est-il disqualifié par l'ordinateur alors que le résultat semblait parfait ?
C'est une question d'ergonomie et de point de vue de l'artiste. Pour utiliser son petit miroir, Jennison devait constamment bouger la tête, regarder le reflet, baisser les yeux sur la toile, se redresser pour soulager son dos, etc.
Oui, normal, on ne reste pas pétrifié pendant des mois.
Le problème, c'est qu'à chaque fois que votre pupille se déplace, même de quelques millimètres, votre perception de la perspective de la pièce change imperceptiblement. Il est rigoureusement impossible de maintenir une cohérence optique aboutissant à un point de fuite unique situé à 22 mètres de distance en hochant la tête des milliers de fois.
Le piège se referme. S'il n'a pas pu utiliser la géométrie classique à cause du manque de recul physique, et si l'utilisation d'un miroir de type caméra lucida détruit la cohérence de ce point de fuite lointain à cause des mouvements de la tête, il ne reste qu'une seule solution matérielle, non ?
Oui, une seule.
Vermeer a obligatoirement dû utiliser une véritable caméra obscura. Mais pas un petit modèle portable de la taille d'une boîte à chaussures qu'on pose sur une table. Il a dû construire ce qu'on appelle une chambre noire de type cabine.
Exactement. Une véritable petite pièce sombre ou une grande tente opaque montée en plein milieu de son atelier dans laquelle il pouvait s'asseoir entièrement.
D'accord. Et comment ça fonctionnait ?
La lumière de la scène éclairait la jeune femme, le clavecin, le carrelage, entrée par une lentille fixée sur la paroi de la cabine, et ça projetait l'image inversée directement sur le mur du fond, là où Vermeer avait fixé sa toile.
L'image était donc projetée grandeur nature, ou presque.
Voilà. Et l'avantage massif, c'est que son point de vue restait totalement figé par la position immuable de la lentille. La perspective projetée sur la toile était d'une cohérence mathématique absolue, dictée par les lois implacables de l'optique. Ce qui inclut ce fameux point de fuite à 22 mètres.
C'est brillant.
Il n'avait plus qu'à décalquer les contours de la lumière projetée dans la pénombre de sa cabine.
Et la preuve définitive que Vermeer décalquait une projection lumineuse dans le noir, c'est que l'ordinateur a repéré une trace d'humanité magnifique dans cette géométrie rigide. C'est l'indice ultime laissé sur la scène de crime.
Cela soulève une question importante sur l'interaction entre l'homme et l'outil. Quand les logiciels scrutent la toute première ligne transversale qui sépare les carreaux clairs et sombres tout au bord inférieur du tableau de Vermeer, il remarque une anomalie.
Quelle anomalie ?
Cette ligne penche très légèrement vers la droite. Elle est déviée au point de venir couper le coin du carreau adjacent. Or, dans une projection optique pure dictée par une lentille, cette ligne devrait être parfaitement droite.
Ce n'est pas un bug de la lentille, c'est la main du peintre.
C'est exactement ça. Imaginez la scène. Vermeer est dans l'obscurité de sa cabine. Il tente de suivre au pinceau ou à la craie la fine ligne lumineuse projetée sur sa toile. Le trait dévie d'un millimètre, une simple erreur de tracé manuel, une fatigue de l'œil dans la pénombre.
Une petite crampe, peut-être.
Pourquoi pas? C'est ce que les chercheurs appellent la trace géométrique irréfutable. L'erreur humaine qui valide l'utilisation de la machine optique.
J'adore l'idée que ce soit un petit coup de pinceau tremblant dans le noir qui, 4 siècles plus tard, soit révélé par des algorithmes d'architecture pour percer le secret du maître. C'est vertigineux. Mais est-ce que, au fond, cette révélation ne vient pas casser le mythe du génie absolu?
C'est-à-dire?
Bah, si n'importe qui peut s'enfermer dans une boîte sombre et décalquer la réalité grâce à une lentille, est-ce que Vermeer reste Vermeer? On a l'impression que c'est juste de la copie, du coup.
Si on relie cela à une vue d'ensemble de la création artistique, c'est vraiment une fausse inquiétude. L'utilisation d'une assistance technologique ne supplante en rien la virtuosité.
Tu crois?
J'en suis sûre. L'étude de la Catalogne fait un parallèle très pertinent avec une artiste hyper réaliste contemporaine, Sok Kanlai.
Ah oui, l'exemple de la raquette.
Oui. Lorsqu'elle veut peindre la grille extrêmement complexe du cordage d'une raquette de badminton, elle projette une diapositive sur sa toile et en décalque la structure géométrique. Ça lui fait gagner un temps précieux sur le dessin technique. Mais une fois la grille tracée, le projecteur est éteint.
La machine s'arrête, l'humain prend le relais.
Précisément. Avoir les contours corrects d'un visage ou d'un carrelage ne vous indique en rien comment peindre l'humidité sur les lèvres entrouvertes d'une jeune fille.
C'est très juste.
La lentille ne vous dit pas comment superposer un glacis de lutéoline et d'indigo pour rendre un tissu si soyeux. Décalquer l'armature de la réalité est une chose, y insuffler la vie, jouer avec les épaisseurs, gérer la chimie subtile des liants et des huiles, ça requiert un génie d'exécution que l'optique ne fournit pas.
Alors qu'est-ce que tout cela signifie? Au terme de cette analyse, que l'on se penche sur la chimie complexe d'un rideau vert disparu ou sur les algorithmes qui décortiquent un carrelage hollandais, on arrive à une conclusion limpide.
Laquelle?
La technologie n'a jamais été l'ennemi de l'art. Au contraire, elle en est le prolongement. Que Vermeer manipule des lentilles de verre grossier au XVIIe siècle ou que nos scientifiques manipulent des rayons X macroscopiques au XXIe siècle, le but est le même, repousser les limites naturelles de notre vision.
C'est magnifiquement dit.
L'outil optique n'a pas fabriqué le génie de Vermeer, il lui a simplement offert une structure parfaite pour y déployer sa sensibilité chromatique phénoménale.
C'est le cœur du sujet. Le pont entre les époques est fascinant. Et pour conclure d'ailleurs, cela nous amène à une perspective vertigineuse pour notre propre époque.
Ah, je t'écoute.
Réfléchissons-y un instant. Vermeer a utilisé ce qui était littéralement la technologie d'imagerie spatiale la plus avancée du XVIIe siècle, la chambre noire, pour concevoir la réalité virtuelle de son temps.
Une immersion totale dans une illusion en 3 dimensions.
C'est ça! Aujourd'hui, nous mobilisons l'intelligence artificielle, la modélisation 3D et les rayons infrarouges pour comprendre comment il a piraté la perception visuelle de ses contemporains. Cela pose une question immense pour demain.
Laquelle ?
Des algorithmes et des outils immersifs génératifs, est-ce qu'ils auront besoin d'ordinateurs quantiques dans 400 ans pour réussir à déconstruire les strates numériques de nos propres créations ?
La technologie continuera de courir après l'art pour tenter d'en percer les mystères.
Une vraie course aux armements entre le créateur et l'analyste, qui ne finira probablement jamais. Le mystère, la magie que l'on perçoit, c'est finalement ce petit espace indéfinissable qui subsiste entre ce que la machine permet de mesurer et ce que la main humaine choisit d'en faire. Même sous la lumière la plus crue d'un scanner, l'intention de l'artiste conservera toujours sa part d'ombre. C'est ce qui rend l'enquête infinie. À ceux qui nous écoutent, gardez la curiosité en éveil, il y a toujours une couche supplémentaire à révéler.